Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle beaucoup ces temps-ci d'une députée poète. Or, notre ami historien Dave Noël nous parle de celui qui a inventé ce terme-là, député-poète, c'est-à-dire Gérald Godin, grâce à la biographie de Jonathan Livernois. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
Émotionnel ou rationnel? Rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Mais bonjour Guillaume Lavoie.
Antoine Revitaille, bonjour.
Expert en politique et turiféraire du vélo et du covoiturage, comment vas-tu?
Très, très bien.
On profite des vacances ou des c'est pas un congé vraiment ici à l'Assemblée nationale, ils travaillent en circonscription, dit-on. Pour parler de deux propositions qui flottent là dans les réformes parlementaires avérées ou non, pour améliorer la qualité du débat politique. Donc, première chose, le directeur parlementaire du budget. Pourquoi ça serait important d'adopter créer ce poste?
Ben, moi, je suis plutôt transparence totale. Je suis assez... en même temps, j'ai toujours une espèce de réticence de rajouter des officiers parlementaires parce qu'à un moment donné, le rôle du politique, c'est de faire ce travail-là. Mais là-dessus, je pencherais du côté que ce serait un ajout payant. Alors, juste pour la petite histoire, là, c'est quoi un directeur parlementaire du budget? C'est une invention qui est très ancienne. On peut remonter presque au début des années 30, en Belgique, qui est vraiment un modèle là-dessus, mais les Pays-Bas, le Danemark. En Amérique du Nord, c'est la Californie qui a donné le ton dans les années 70, et au fédéral, au gouvernement américain fédéral, en 74, il y a eu ce qu'on appelle le CBO, le bureau du Congrès pour le budget, le Congressional Budget Office. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une espèce, on pourrait dire, c'est pas tant un vérificateur général, c'est quelqu'un qui ne s'occupe que des politiques fiscales et budgétaires, qui est indépendant du gouvernement, qui produit de l'expertise et qui peut répondre à des mandats de parlementaires, un peu comme la bibliothèque de l'Assemblée nationale ou la bibliothèque du Parlement. Moi, parlementaire, je peux dire, écoutez, la proposition du gouvernement de donner des chèques ou de faire X, Y, Z ou l'idée folle de piger dans le fond des générations, quel impact ça va avoir sur la dette? Quel impact ça va avoir sur le budget? Et là, ce n'est pas une réponse du gouvernement, qui est bien sûr colorée par un objectif politique. C'est quelqu'un qui regarde ça de manière indépendante et ça contribue assez fortement à la transparence budgétaire.
Et moi, au moins, c'est une réponse sur laquelle tout le monde peut se baser parce qu'elle est vraiment documentée. Et on a un exemple ici de ça, c'est quand le vérificateur général, avant une élection, présente une espèce de portrait objectif des finances publiques. Et ça, ça a été ajouté uniquement autour de 2008, si je me souviens bien, parce que avant ça, les partis se disputaient sur l'état des finances publiques. Puis là, quand un des partis gagnait puis arrivait au pouvoir, il disait « c'est terrible la situation dans laquelle on m'a laissé, je peux pas respecter mes promesses ». Alors ça, on a mis fin à ça.
Qui est toujours choquant, et de fait, parce que c'est par nature complexe. Par exemple, moi, c'est très facile, je vais vous faire le budget de l'État à zéro, j'ai juste à prendre les déficits puis les laisser dans les hôpitaux, par exemple, on avait déjà vu ça, là. Est-ce que les déficits des hôpitaux, je mets ça dans le déficit du gouvernement ou je le laisse au sein des différents organismes? pour être capable d'avoir un portrait clair sur les conventions comptables qu'on utilise, que l'effet à long terme des promesses ou des dépenses à court terme, il y a du plus là-dedans. Puis là, bien évidemment, on avait ça aux États-Unis, mais c'est arrivé aussi au Canada. Au fédéral, ça existe depuis 2006. Et par exemple, lorsque le gouvernement fédéral dit « bon, on va faire telle promesse », puis là, tu te rends compte que le directeur du Parlement dit « avez-vous réalisé que ça va coûter 14 milliards? » Alors, ça permet de calmer le jeu puis d'éviter les enflures de dépenses, soit électorales ou gratuites, ou d'éviter de dire « je dépense ici, mais c'est comme si ça n'avait pas d'effet là, sur le reste ». En Ontario, Antoine, je lisais ça ce matin, eux, ils ont ça depuis 2013. Et là, on pourrait se dire « bon, ben là, peut-être que le Québec devrait commencer à parler de ça ». Et là, Antoine, toi qui es vraiment la mémoire du Parlement, là, je vais te rappeler des souvenirs pas si lointains, imagine. En 2012, la CAQ, je pense, sont au gouvernement ces temps-ci, ont déposé un projet de loi pour la création d'un poste de directeur parlementaire du budget. Il est mort au feuilleton. En 2015, la CAQ et le PQ ont conjointement déposé un projet de loi pour faire ça.
Oui.
C'est mort au feuilleton. En 2019, QS a fait un copier-coller du projet de loi d'avant et il l'a déposé. C'est le projet de loi 496. Il est mort au feuilleton.
Il est mort au feuilleton, oui.
Pourtant,
c'est Vincent Maristal qui avait déposé ça, oui.
Oui, qui est un copier-coller de l'autre d'avant, là. Et le projet de loi qu'avait déposé QS, le principe a été adopté à l'unanimité. Donc, tous les partis, sauf à tout le moins les libéraux, ça, je ne suis pas sûr, mais ils ont voté. Alors, tout le monde à l'Assemblée nationale a voté en faveur de ça.
Alors là, la proposition de réforme parlementaire de Simon-Jolin Barrette, qui est leader parlementaire du gouvernement depuis 2018. Il a déposé une réforme en 2020 et ça comportait la création d'un poste de directeur parlementaire du budget.
Oui, et là, bon, mais il n'est pas juste leader, hein, il est membre du gouvernement. Alors, on peut présumer que la solidarité ministérielle est telle que quand un membre du gouvernement dit « nous allons faire ceci », ben là, je regarde, là, puis là, le cimetière de ce projet de cette idée-là meurt au feuilleton, déborde.
Ouais.
Est-ce que cette fois-ci, ça va se faire pour vrai? Là, c'est peut-être la grande question, là, parce qu'il manque pas de
Au
majorité.
Gouvernement, on me dit qu'on est toujours ouvert, mais il n'y a comme pas d'initiative là-dessus. Peut-être qu'on se dit que d'autres...
Un rappel intéressant, c'est presque... Ben, en fait, tous les députés qui ont été réélus, tout parti confondu, là, ça veut dire à peu près tous les députés de Québec solidaire, tous les députés du Parti québécois, sauf M. Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui lui est nouveau, à peu près tous les députés qui étaient là la dernière fois chez les libéraux et 100% des caquistes, ben, tous ces gens-là ont voté pour la dernière fois. Alors là, ou bien ils ont de la suite dans leurs idées, ou ils disent « mais non, finalement, c'est pas ça qu'on veut ». Mais là, à un moment donné, on ne peut pas juste toujours proposer un projet de loi puis pas livrer.
Mais ça prend comme une actualité forte pour sur un sujet de dépenses publiques pour ramener ça à l'avant-plan. Est-ce que tu vois quelque chose à l'horizon? Peut-être des négociations avec le secteur public, je ne sais pas.
Ben ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, qu'on soit pour ou contre là, l'augmentation des salaires à la fonction publique, quelles sont les conséquences de ça sur les autres choix budgétaires? Quelles sont les conséquences, par exemple, là, on a des partis à l'Assemblée nationale qui disent le fonds des générations, là, c'est pas important, ça, c'est de l'argent qu'on pourrait dépenser maintenant. Quelles sont les conséquences de cette proposition-là sur le fait que c'est adossé à la dette
et les taux
d'intérêt qu'on a? Quelqu'un qui dit, puis là, ça, c'est le gouvernement actuel, qui dit, ben là, nous, on va couper un peu nos contributions au fond. Et c'est de permettre... La clé dans un Parlement, c'est l'information. L'information, elle est massivement disponible pour les membres du gouvernement, beaucoup moins pour les autres députés, qu'elles soient à l'opposition. Et le pire, c'est les députés derrière-banc au gouvernement. Ben là... Quelqu'un pourrait dire, moi, je demande à l'officier parlementaire du budget de regarder cette question-là et d'informer tout le monde. Puis le directeur du budget, il ne travaille pas pour le gouvernement. C'est un officier de l'Assemblée nationale. Ça, pour moi, la base d'une information transparente et fiable, pour bien parler des choses, il faut avoir des informations. C'est garbage in, garbage out.
Oui. Deuxième idée, Guillaume. Première idée, c'est le directeur parlementaire du budget. Deuxième idée, c'est avoir des commissions parlementaires qui réfléchissent davantage.
Ça, c'est... Oui, et là, c'est pas de dire qu'ils réfléchissent pas, mais les commissions parlementaires dans le système parlementaire britannique, c'est une machine à éplucher avec un grand sérieux, très souvent, les projets de loi. S'il n'y a pas de projet de loi, ben, ils n'ont théoriquement rien à faire. Et là, on a des présidents...
Mais il y a toujours des projets de loi, donc ils sont toujours débordés. Crois-moi, ouais, je les vois aller.
Ils ont juste moi, je mettrais plus de jours parce que moi, je suis un grand... moi, je crois profondément que être député, il faut être connaissant dans le plus de choses possible. Tout le monde arrive avec une expertise qui est la sienne, mais elle n'est pas totale et surtout, là. Alors, imaginons des présidents de commission qui ont à la fois la liberté et des budgets de dire, ben moi, les membres de ma commission, là, on ne va pas siéger, ce ne sera pas une séance publique, mais je veux pouvoir inviter tel conférencier sur tel thème, tel expert sur tel autre, afin que nous nous donnions l'expertise, le bagage, la compréhension plus aiguë pour être capable de mieux faire notre travail par la suite. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que comme il y a plusieurs commissions, puis il y a plusieurs présidents, ben, ils pourront y donner leur couleur. Un voudra dire, ben, moi, c'est sur la transparence budgétaire. Moi, c'est sur les modes de reddition de comptes. Moi, c'est sur tel type de truc en agriculture. Laissons aller les différentes initiatives, mais pour ça, il faut leur donner un peu d'argent, mais aussi la capacité de le faire eux-mêmes, là, pas avoir besoin de demander la permission au leader, par exemple.
Tu m'as dit que tu voulais parler de ça. Puis moi, j'ai fait quelques téléphones, là, Guillaume.
Ah oui.
Et il y a une formation obligatoire sur les changements climatiques qui se donne actuellement. Il y a eu deux formations, deux séances. Et justement, petite anecdote, à la dernière séance, là, c'était oui. Sur les changements climatiques. Il y avait Alain Webster et Alain Bourque là, de l'Institut Uranos qui étaient là. Il y avait une séance de questions après, une période de questions après. Or, le premier ministre, François Legault lui-même, s'est levé parce que tous les parlementaires doivent être là.
Les 125 étaient là.
Oui, c'est ça. Donc, ils doivent être là, mais on sait qu'à la première, ben il y a beaucoup de députés de Québec solidaire qui étaient aux abonnés absents. Ça leur a été reproché. Il y a eu un article là-dessus. Mais à la deuxième, il y avait beaucoup de monde. Et le premier ministre, il s'est levé pour contredire les experts. Alors, certains dans les partis d'opposition ont dit ouais, le premier ministre, il refuse la science d'une certaine façon parce que le premier ministre disait vous dites n'importe quoi sur Hydro-Québec. Et au fond, il avait l'air de trouver que l'idée de faire des barrages, ça allait de soi au moment où on se trouve actuellement. Donc, c'est intéressant. Et donc, ce que tu proposes existe déjà, mais peut-être pour l'Assemblée nationale en général, parce qu'il y a eu des formations sur les Premières Nations. Il y a eu aussi des formations sur la notion d'agression sexuelle et tout ça. Donc, il y a quelque chose comme ce que tu proposes, mais c'est pas au sein des commissions parlementaires qui sont des machines à étudier des projets de loi, mais plus largement, là, au Parlement comme tel.
Oui, en fait, c'est intéressant qu'il y ait déjà ça en marche. Moi, j'en ferais pas quelque chose d'obligatoire parce que à la limite, ça permet de dire, ben moi, je vais aller à celle-là parce que où j'ai déjà quelqu'un de mon parti qui me représente là. Puis je veux pas qu'on fasse, ou j'aimerais mieux qu'on fasse pas de politique où ah toi t'étais pas là, donc ça t'intéresse pas. À la fin, c'est un jugement un peu trop facile. C'est sûr que d'être le chef du gouvernement et dans la première formation obligatoire pour tout le monde sur un thème hyper sensible d'aller dire « je prends la parole en premier pour déculotter les experts », c'est peut-être pas la manœuvre politique du siècle. Même si on peut avoir des désaccords sur comment on met en œuvre ce qu'on apprend. Là.
Chez les caquistes, on avait l'impression d'avoir des gens de Québec solidaire devant soi, donc je sais que... Ça, c'est beau dans l'idée des formations, mais c'est tout est en politique, surtout au Parlement. Ça crée des tensions. Mais c'est intéressant.
C'est normal. Puis, à la limite, c'est rare d'avoir tous les experts qui sont d'accord sur tout.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'un va dire blanc puis l'autre va dire noir. Mais moi, c'est ce que j'aime dans l'idée de donner ça aux commissions, ne serait-ce à cause que je ne veux pas avoir une seule personne qui décide « voici ce qu'il faut savoir ».
Oui.
Alors là-dessus, par la multitude des gens qui disent « moi, je veux avoir tel expert ou tel autre », à la limite, deux experts qui croient que les changements climatiques, c'est super important, peut-être qu'un va mettre l'emphase sur l'énergie, un autre mettrait l'emphase sur le transport. On ne peut pas faire le tour d'une question en disant « voici les deux seuls experts qui font entendre ».
Moi, je vais juste te proposer quelque chose en terminant parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. c'est que ce soit les partis politiques qui soient davantage que des clubs de supporters. Et ça, l'inspiration vient de l'Allemagne, où il y a vraiment des fondations qui organisent. Donc, je trouve que c'est plus en amont, si tu veux, du travail parlementaire puis législatif, qui font en sorte, ces fondations-là, que les grands partis politiques allemands sont des machines à réfléchir. Et ils ont des budgets pour réfléchir. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Et je trouve qu'on devrait importer ça parce que les derniers partis qui ont été créés puis qui ont eu du succès, je trouve, ici au Québec, bien souvent, comment dire, ils réfléchissent plus comme les partis des années 70, mettons, ou même des années 90, 2000. Moi, je me souviens très bien du Parti libéral du Québec qui faisait un vrai travail de réflexion. Et évidemment, le Parti québécois a été une machine aussi à idées extraordinaires. Et ça s'est perdu. Or, et la Coalition Avenir Québec, c'est plus un club de supporters de François Legault qu'un parti où il y a des instances qui réfléchissent, qui amènent des propositions. Parce, je le dis pour avoir suivi plusieurs conseils généraux puis congrès de la Coalition Avenir Québec. Donc, je trouve qu'il faudrait rendre nos partis politiques plus discuteux et plus, comment dire, axés sur la réflexion.
Ben là-dessus, moi, je te rejoins. Moi, je pense que la vie d'un parti politique, et c'est pour ça que j'ai autant d'hésitation sur la réforme du scrutin. La vie d'un parti politique, c'est de se préparer à former le gouvernement.
Mmh.
Ben ça se fait pas avec un programme que tu réfléchis avec 2-3 personnes à la dernière minute.
Mmh.
Que ce soit vécu, réfléchi. Moi, j'ai vécu en Europe longtemps. Chaque parti politique avait son université d'été.
Voilà.
Qui est une machine à occuper les militants, à les faire travailler puis réfléchir. Et là, tu invites des experts, tu discutes, tu peaufines. Alors, dans le fond, on veut, toi et moi, plus de formation.
Oui. Hey, merci, Guillaume. Tu n'es pas là demain, donc on se reparle jeudi, sans faute.